Chers auditeurs, nous poursuivrons aujourd'hui l'histoire du schisme d'Occident et de ses répercussions au diocèse de Bayonne. Après bien des avatars et des difficultés, liées le plus souvent aux aléas de la politique des princes séculiers, malgré les réticences, voire l'opposition du pape d'Avignon, Benoît XIII, on finit par se tourner vers l'empereur romain Sigismond pour résoudre la grave crise de l'unité de l'Église. L'empereur était en effet considéré comme l'avoué et le défenseur de l'Église. Il publia donc un décret le 30 octobre 1413 qui annonçait qu'un concile s'ouvrirait un an plus tard à Constance. Après la destitution et même la fuite de Jean XXIII, après la marginalisation de Benoît XIII qui se réfugia en Espagne sur le rocher de Peñíscola, après la démission, on disait plutôt la cession du pape de Rome, le concile réuni à Constance put élire un pape reconnu par toutes les puissances séculières et par toutes les parties, Martin V. L'Église retrouverait son unité. Nous avons dit les répercussions du schisme sur le diocèse de Bayonne. À Constance, seul fut présent l'évêque résident à Saint-Jean-Pied-de-Port, Guillaume de Laborde. Il représentait Charles III, roi de Navarre. Il y fut certainement actif, car il obtint des pères conciliaires un décret qui devait mettre fin au schisme dans le diocèse de Bayonne. À la 31e session, le 31 mars 1417, Pierre de Pologne donna lecture d'une décision concernant l'église de Bayonne. Le rapporteur évoqua tout d'abord les deux évêques qui se partageaient le diocèse. Et c'est comme cela que nous savons que l'évêque résidant à Bayonne avait rejoint le pape nommé à Pise et qu'il venait de mourir. Que celui qui avait été nommé par Benoît XIII, Guillaume de Laborde, était à Constance. Le concile décréta que Guillaume de Laborde serait désormais seul évêque légitime du diocèse de Bayonne. Il invitait tous les fidèles à lui obéir comme à leur véritable évêque et pasteur, et l'évêque à se comporter comme tel à leur égard. De plus, le décret interdisait aux chanoines de désigner un évêque et à l'archevêque d'Auch de le confirmer éventuellement dans cette charge. De retour du concile et fort de la décision prise en sa faveur, Guillaume de Laborde s'installa à Bayonne. Nous ne savons pas à quelle date il arriva dans sa ville épiscopale, sans doute avant 1420. Nous ignorons également si l'accueil fut cordial ou réservé. L'épisode de l'obédience au pape de Pise avait probablement émoussé l'intransigeance des fidèles bayonnais. Il existe un document, une déclaration de Guillaume de Laborde, qui, au concile de Constance, s'engage à ne prendre possession de la partie de l'évêché de Bayonne appartenant à Henri, roi d'Angleterre, qu'après lui avoir prêté hommage. On ne pouvait concevoir l'unité du diocèse sans l'unité du chapitre. Un compromis rédigé en gascon fut adopté le 14 avril 1418 au sujet de l'attribution des divers revenus canonicaux. Cet accord scella définitivement l'unité retrouvée. L'épiscopat de Guillaume de Laborde se termina en 1444 par un transfert sur le siège de Dax. Celui qui vint à Bayonne, ce fut l'évêque de Dax, Guy Charnot de La Seigue, qui avait été d'ailleurs auparavant chanoine de Bayonne, avant d'être nommé évêque de Dax en 1439. On ignore les raisons de cette permutation. Et Guillaume de La Seigue fut évêque de Bayonne jusqu'à sa mort en 1454. Jean de Marville, lui succède cette même année. En 1463, il est transféré au siège d'Uzès. On ne connaît pas la date exacte de la nomination de son successeur, Jean du Lor, qui, pense-t-on, résigna sa charge vers 1484 pour devenir évêque titulaire d'Apana en Syrie. Ces trois derniers épiscopats soulèvent quelques questions. Pourquoi ces changements et ces transferts contraires à la tradition? En effet, un évêque était considéré comme l'époux de son Église et l'on n'abandonnait pas une épouse, même pauvre, dira plus tard saint François de Sales, pour une autre, même plus riche. L'explication pour le transfert de ces évêques et pour les difficultés qui surgiront à l'occasion de la nomination du successeur de Jean du Lor, cette explication est à chercher dans l'événement politique qui, en 1451, verra la fin de la présence anglaise au Labourd et le rattachement de cette province à la couronne de France. Si le roi d'Angleterre n'est guère intervenu dans la nomination des évêques de Bayonne, celui de France n'aura pas la même attitude. D'ailleurs, l'Église de France lui reconnaît le droit d'intervenir dans les questions disciplinaires, et cela en raison, comme on disait, de l'intérêt supérieur de l'Église. C'était la pragmatique sanction qui était en œuvre à cette époque-là. Désormais, trois personnages interviennent dans la nomination de l'évêque de Bayonne, le pape, le roi et bien sûr encore le chapitre. Le cardinal Pierre de Foix avait l'aval du roi de France pour succéder à Jean du Lor. Philippe de Léris, nommé par le pape en 1491, ne fut jamais ordonné évêque. Enfin, les chanoines élirent Jean de la Barrière. Ce dernier gagna d'ailleurs un procès au Parlement de Bordeaux contre le cardinal de Foix, son concurrent. Son bon droit fut reconnu et il devint évêque de Bayonne. Mais il ne reçut la consécration épiscopale qu'en 1495, 11 ans après le départ de Jean de Lor. Il resta à la tête du diocèse jusqu'à sa mort en 1504. Dans une lettre que l'on date du 15 décembre 1490, les notables de Bayonne s'étaient adressés au roi pour l'informer que depuis 7 ans, Bayonne était son pasteur et que depuis 36 ans, les évêques avaient fait plus d'absence que tenu la résidence. Ces évêques, en effet, venaient d'ailleurs et quand ils étaient nommés, ils venaient apparemment sans beaucoup d'enthousiasme puisque, nous l'avons vu, les diocésains avaient à se plaindre de leurs absences. Le successeur de Jean de la Barrière fut, comme lui, originaire de la région, ou plus exactement de Bayonne. Nous en parlerons une autre fois. Mais à la prochaine émission, nous dirons quelle était la vie de l'Église, la vie du peuple de Dieu au diocèse de Bayonne.